Où avez-vous été baptisé?
Dans l'église de Don Rémy.
Vous devez dire la vérité à votre juge.
Prenez garde, vous qui vous dites mon juge, vous assumez une grande charge. Je l'entendais du côté droit vers l'église. Il y avait une grande clarté. Je ne l'ai jamais entendue sans clarté. Après 3 fois, je reconnus la voix d'un ange. Elle me disait qu'il fallait partir et que je lèverais le siège devant la cité d'Orléans.
Monseigneur l'évêque nous envoie vers vous pour vous annoncer que vous allez mourir.
Je veux bien mourir, mais je ne veux pas qu'on brûle. Mon corps n'a pas été corrompu. Il ne faut pas le détruire, il ne faut pas le mettre en cendres. Les voix que j'ai eues étaient de Dieu. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par le commandement de Dieu.
Histoire 2, Patrick Boucheron sur France Inter.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous entendez cette voix? Bien entendu que vous la reconnaissez. Elle est née à Don Rémy en 1412 peut-être. Elle est morte brûlée à Rouen le 30 mai 1431. Cela oui, on en est certain. Jeanne d'Arc, héroïne française. Voilà ce qui était marqué sur la plaque de la rue où j'ai passé mon enfance. Débrouillez-vous avec ça. Je n'étais pas né quand le film de Robert Bresson, Le procès de Jeanne d'Arc, faisait entendre cette voix au cinéma. Une voix de plus en plus puissante, implacable, invincible, au fur et à mesure que les juges s'acharnaient sur elle. Telle est la question que l'on doit se poser. De quoi ont-ils eu peur? Qu'est-ce qui les a tant effrayés dans cette obstination juvénile d'une paysanne qui, dit-elle à ses juges, ne sait pas le A et le B? Portrait de la jeune fille en feu, tel pourrait être le titre de l'émission d'aujourd'hui. C'est l'histoire d'une femme, qu'on disait prophétesse, et qui se fit homme de guerre, qu'on traitait de putain et qu'on brûla comme une sorcière. Historienne de la justice médiévale, Claude Govard fait paraître une Jeanne d'Arc dont le titre est « Héroïne diffamée et martyr ». Alors tapons au cœur, si vous le voulez bien, on ne parlera ni d'héroïsme ni de martyr, mais bien de diffamation. On en parlera avec nos deux historiennes, notre invitée étant rejointe dans la seconde partie de l'émission par la sociétaire du jour, Emmanuelle Tixier-Duménil, mais on en parlera aussi depuis cette voix rauque, rare et radicale que l'écrivain Marc Graciano plante dans la littérature contemporaine. Lui aussi viendra nous rejoindre avec son livre « Johan » pour que s'y consume encore ce qu'il appelle une espèce de Moyen-Âge. Claude Govard, bonjour.
Bonjour Patrick Boucheron.
Et puisque l'on parle d'une femme diffamée, commençons, si vous le voulez bien, par votre propre fama, votre renommée Claude Govard. Vous êtes professeur émérite d'histoire médiévale à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez occupé des positions éminente dans le champ académique. Vous avez gouverné les médiévistes avec une main qui n'a jamais tremblé, je le sais. Et au fond, bah c'est ça aussi l'exercice du métier. Hein. C'est important de dire que un grand professeur, et vous le fûtes, c'est quelqu'un qui a des étudiants, qui fait des thèses, qui produit voilà du savoir collectif et aussi des livres. Mais, oui. Mais lesquels? C'est ça la question. Au soir d'une carrière bien remplie, quels sont les livres que vous aviez envie d'écrire? Alors il y en a un qu'on attendait de vous, qui est paru en 2018, votre grande histoire de la peine de mort. Et puis après, vous auriez pu vous divertir en écrivant la biographie d'un roi. Mais ce n'est pas une biographie et ce n'est pas un roi. C'est Jeanne d'Arc, enfin. Et c'est un livre jeune, vif, alerte. Je dirais que c'est votre Jeanne d'Arc.
Oui, je pense que j'avais très envie depuis très longtemps d'écrire sur Jeanne d'Arc. Et j'avais toujours été retenue parce que c'est un personnage extrêmement difficile. Ça a été un livre très difficile à écrire. Parce que je pense qu'il faut aussi une certaine maturité pour arriver à comprendre ce qui se cache derrière les procès.
Mais vous connaissiez tout pourtant. Vous êtes une historienne de la justice.
Oui, bien sûr. La procédure, tout ça, bien sûr. C'est simple, ça, à comprendre. Mais comprendre derrière les dépositions de cette jeune femme ce qu'il y avait de vérité, de sa vérité à elle, et de la vérité de son temps aussi.
Oui.
C'est ça qui m'a occupée.
Et ouais. Qui vous a aussi inquiété, parce que votre livre commence comme il se doit par la fin. Nous sommes le mercredi 30 mai 1431, sur la place du Vieux Marché de Rouen, on l'a dit, en fin de matinée. Une femme monte au bûcher, on a tous appris ça à l'école, mais vous, en tant qu'historienne de la peine capitale, Claude Govard, vous vous étonnez. D'abord, la sentence de mort n'est pas si fréquente que cela, et ensuite, en tant que rebelle, elle aurait pu être décapitée. Or là, elle est brûlée, et il faut commencer par là.
Oui, parce que brûler, ça a une autre signification. C'est-à-dire brûler, ça veut dire ne plus rien laisser.
Détruire entièrement.
Détruire entièrement. Et dans le film de Bresson, c'est bien ce qui est dit. Hein. Elle ne voulait pas être détruite entièrement. Et le problème, c'est que pour ressusciter, ça pose d'énormes problèmes aux médiévaux. Parce que quand vous n'avez plus rien, comment, à partir du corps, ressusciter un corps ? Un corps brûlé, il n'y a plus rien.
Oui.
Donc, je suis partie de là, et je suis partie aussi du discours qu'a fait, du prêche qu'a fait Guillaume Erard, où il la traite de monstre de l'hérésie. Et c'est ça qui m'a aussi beaucoup frappée.
C'est en tant qu'hérétique qu'elle peut être brûlée,
voilà,
c'est ça.
Voilà. Elle est hérétique et sorcière. Donc elle a le double stigmate qui fait que, finalement, elle doit être brûlée. Alors que la décapitation, les Anglais l'ont pratiquée, hein, sur la place du Vieux Marché, contre les rebelles, hein, politiques. Mmh. Donc c'est plus que du politique. C'est de la lèse-majesté royale et divine.
Oui, et vous décrivez le supplice, vous le décrivez précisément, c'est comme ça que ça commence, tout le monde pleure, Jeanne d'Arc pleure, mais parce qu'elle a reçu le don des larmes.
Oui.
Donc ça veut dire d'une certaine façon que le jugement de Dieu, eh ben, il va à l'encontre de la sentence inique. Et puis les témoins aussi, d'une certaine manière, ont les yeux embués de larmes, ce qui fait qu'ils ne voient pas grand-chose, ou alors ils ne voient pas la même chose. Donc il y a des rumeurs sur ce supplice.
Oui, il y a des rumeurs et bon, alors ça arrive jusqu'à Paris. Il y a une centaine de kilomètres qui séparent les deux villes et très vite à Paris, on sait ce qui s'est passé et le bourgeois de Paris, qui était un esprit un peu retors et très surtout très pro-bourguignon, très hostile à Jeanne d'Arc, raconte comment finalement le bourreau, à moitié calciné, a sorti le corps pour montrer bien que c'était une femme, parce qu'on pouvait douter déjà à l'époque qu'il s'agissait d'une femme, étant donné que c'était la première fois qu'on voyait une femme chef de guerre et capitaine, puisqu'elle portait l'étendard.
Oui, et cette question, effectivement, vous le montrez, il y a plusieurs versions, plusieurs rumeurs, écrivez-vous,
oui.
Vous êtes aussi une historienne de la rumeur, hein, qui circule sur ce supplice. Certaines sont bon, finalement à la gloire de Jeanne déjà, d'autres sont infâmes, mais toutes ont plus ou moins à voir avec la nudité et avec la féminité.
Ça pose vraiment un réel problème. Il faut vous imaginer une société dans laquelle on voit une jeune femme en tenue d'homme, hein, alors que les sexes sont particulièrement bien délimités, hein, mm-hmm. à la vision. Mm-hmm. On doit reconnaître d'un premier coup d'œil qui on est.
Son juge, Pierre Cochon, voulait un beau procès, une procédure exemplaire. Et en fait, de beau procès, ce fut, écrivez-vous, je vous cite Claude Govard, une machine à broyer,
oui.
une guerre mortelle déclarée à la pucelle, une vengeance sous couvert de justice. Je vous cite, mais en fait, beaucoup des contemporains disent ça.
Mais bien sûr, parce que toutes les expressions que j'ai employées sont dans le procès, et dans les procès que j'ai étudiés par ailleurs, bien sûr, elle l'accuse de haine mortelle. Elle lui dit, vous êtes mon ennemi mortel. Et dans n'importe quel tribunal, je pense au Parlement de Paris, eh bien là, les juges auraient arrêté immédiatement. Vous voyez la procédure.
Oui.
En disant un juge haineux n'a pas le droit de procéder de cette façon.
Oui.
Et là, il n'y a pas d'arrêt. C'est une machine à broyer. Une machine à broyer aussi par la prison. Et ça, c'est une chose qu'on ne sait pas assez, je pense. Elle est quand même restée 5 mois prisonnière. Et 5 mois prisonnière, ça fait monter la tension. Les gens du Moyen-Âge ne supportent pas l'enfermement.
On l'entend bien à la lecture de la déposition du procès, elle est très courageuse, mais parfois elle craque, et puis surtout elle comprend qu'on en veut aussi à son honneur, à l'honneur d'une femme de bonne renommée. Parlons justement de son état de pucelle. Si on l'a dit ainsi, c'est pour, d'une certaine manière, la conformer à une prophétie, parce que vous le dites, après d'autres, Jeanne n'est pas la seule femme à entendre des voix. Dieu se fait entendre par plein de prophétesses depuis la fin du XIVe siècle, et l'une d'elles, Marie Robin, révéla à Charles VI que viendrait une pucelle qui porterait ses armes et délivrerait le royaume de France de ses ennemis. Donc Jeanne, pour être entendue, doit se conformer à sa fleur de virginité.
Bien sûr. Alors, sa virginité, elle n'en a pas fait non plus un absolu. Elle dit que elle avait promis à Sainte Catherine et à Sainte Marguerite de rester vierge, mais à la limite, on peut se demander si ce qui serait passé si la guerre ne l'avait pas brûlée, si j'ose dire. Peut-être se serait-elle mariée. Il n'y avait pas de. Ça n'est pas un serment, si vous voulez, que Dieu lui a demandé de faire. C'est elle qui, spontanément, a dit, ben voilà, je fais comme les saintes qui m'apparaissent, je resterai vierge.
Elle était une prophétesse, il y en avait d'autres à la fin du Moyen-Âge, mais sa spécificité, Claude Gauvard, c'est qu'elle s'est fait homme de guerre. Et d'où l'importance, effectivement, lancinante, tout au cours de son procès, de l'accusation d'avoir porté un habit d'homme.
Bien sûr, alors ça c'est un grand moment du procès, plusieurs fois, hein, et c'est repris dans les actes d'accusation. On l'accuse d'avoir pris un habit d'homme, et elle ne veut pas le quitter, parce que elle a peur d'être violée dans sa prison, et puis peut-être qu'elle en avait fait un point d'honneur. Parce que c'est même une jeune femme qui sait parfaitement ce qu'elle veut, et elle va toujours, j'aime beaucoup cette expression qui revient très souvent dans sa bouche, « je vais hardiment ». Hardiment. Et elle tient tête à ses juges sur ce vêtement, comme sur le reste.
Et justement, il y a un moment très important, je trouve, à la fin de votre livre, et vous en avez fait aussi état dans le dernier numéro de l'Histoire, dans une double page qui est une analyse d'images. Alors essayons de faire voir ou de faire imaginer ce qu'on a donné comme un portrait de Jeanne d'Arc. C'est le seul qui serait de son temps. C'est un dessin griffonné dans la marge d'un registre civil du Parlement de Paris par le greffier. Clément de Fauquenberger, le 10 mai 1429. Alors c'est un dessin très célèbre, puisqu'on le tient, oui, pour le seul portrait contemporain de Jeanne, mais c'est pas un portrait, puisque le greffier est à Paris, et il ne l'a jamais vu, il en a entendu parler plutôt en mal. Et qu'est-ce qu'il dessine vraiment ?
Écoutez, moi c'est en lisant et en écrivant ce livre, que d'un seul coup je me suis dit, mais tu ne t'es jamais rendu compte que ce portrait était le portrait d'une prostituée ?
Oui, ça c'est un scoop.
Et elle a les cheveux qui ondulent, telle Marie-Madeleine. Elle a le poitrail ouvert, les seins en avant, dans une tenue très décolletée, un peu comme la reine Brunehaut, qui était réputée extrêmement lubrique, hein, et la robe, effectivement, de la prostituée. Donc ce Clément de Fauquenberg, qui était un homme modéré, mais payé par les Anglo-Bourguignons, bien entendu, eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il répète ce qu'il a entendu dire dans Paris. Il répète la rumeur. Et la rumeur, c'est de dire que cet homme d'armes est en fait une prostituée. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas imaginer autre chose qu'une fille commune suivant les armées.
Et c'est ce que vous montrez d'ailleurs, plus que sorcière, la mauvaise renommée de Jeanne, c'est Jeanne la putain. C'est la putain ribaude. Et encore très longtemps, et pas seulement dans les milieux anglo-bourguignons, au XVe siècle, jusqu'à ce que, d'une certaine manière, puisque nous parlons de sa fama, de sa renommée, elle soit réhabilitée par le procès de 1456, cette image de la putain des Armagnacs qui l'avait fait pleurer.
Ah oui, elle a pleuré quand elle a été appelée putain. Elle pleurait beaucoup, évidemment. Mais vous voyez que elle n'acceptait pas cette diffamation. Et elle n'avait personne, elle, pour lui restituer sa renommée. Quand une femme était appelée putain, elle avait son mari, son père, ses frères, pour passer au couteau celui qui l'avait injurié. Elle n'a personne. Et c'est pas le roi de France qui l'a défendue. C'est elle qui a défendu le roi de France, qui n'est pas la même chose.
Histoire 2. Patrick Boucheron sur France Inter.
Ben on va parler de ça tout à l'heure. On va essayer de comprendre pourquoi cette fille de la frontière, Jeannette de Domrémy, faisait peur à tout le monde. Vous n'avez pas peur, vous n'avez peur de rien. Vous m'aviez dit que Claude Gauvard vous faisait un petit peu peur, Emmanuel. Non, pas du tout.
Un petit peu quand même, parce que pour moi, c'est un personnage quasi aussi hardi. On l'a bien entendu que Jeanne d'Arc, quasi aussi célèbre dans le milieu des médiévistes. Et je suis très heureuse de pouvoir m'entretenir avec elle sur ce portrait de femme, ce portrait d'une femme d'exception, comme vous l'êtes aussi, Claude.
Mais on va le faire après avoir écouté quelque chose de sublime. C'est Christophe qui prête sa voix, et quelle voix, au juge Guillaume Évrard, dont vous parliez, Claude Gauvard. Et le juge Guillaume Évrard dit à Jeanne, dans le magnifique film de Bruno Dumont, Jeanne, sa sentence de mort. Il le dit avec les mots de Charles Péguy. Écoutez.
Avec les morts de nuit, avec les condamnés, les abandonnés, elle ira dans l'enfer avec les morts. corps s'envolera pour que le feu l'embrase. Alors commencera l'éternité sans bord. Dans les hurlements fous des embrasés vivants, dans les hurlements fous des écorchés vivants, dans les folles clameurs des damnés affolés, dans les hurlements de tous les tourmentés. Et les hurlements fous d'éternelle souffrance, et les hurlements fous d'éternelle prière seront comme un silence au flot de la souffrance, noyé comme un silence au flot de la souffrance. Une vie intuable, indéfaisable et folle, et l'éternité sera comme un silence.
La beauté du film de Bruno Dumont, Jeanne, sorti en 2019 et qui faisait suite à sa Jeannette, et que Christophe faisait entendre la voix intérieure de Jeanne, mais aussi celle que vous avez entendue ici, celle de son juge, qui chante sa sentence de mort. Et au fond, c'est le dilemme de l'historien. Carlo Ginzburg l'a montré, il est émotionnellement du côté de la femme diffamée, mais techniquement, il est aussi du côté du juge, qu'il connaît très bien, qu'il comprend, comme vous, Claude Govard. Or, ce juge est un homme. Et Claude Govard fait le portrait d'une femme. Ça change beaucoup de choses, Emmanuel Tixier.
Oui, c'est un très beau portrait de femme, mais Marc Graciano, qui est aussi un homme, fait aussi un très beau portrait de femme, un portrait romanesque. Et je trouve que vos deux portraits se complètent en ceci qu'ils restituent tous les deux, je pense, une figure de femme. Là où, depuis l'époque médiévale et jusqu'au contemporain, on met en avant la pucelle, la jeune fille, la presque enfant, ou alors à l'opposé, l'homme de guerre, le capitaine qui porte des vêtements d'homme, qui a une coiffure d'homme. Et vous, précisément, vous restituez cette féminité. Elle a entre 17 et 19 ans, et on est une femme à cette époque, en particulier au Moyen-Âge. Et grâce notamment aux minutes du procès, on restitue aussi les attaques contre la femme, parce que c'est la femme qu'on vise. On ne trouve rien contre la renommée, donc on l'attaque sur les actes. On l'attaque sur le fait qu'elle est une ribaude, c'est-à-dire une putain, qu'elle est une sorcière et qu'elle a pris les armes. Et c'est ça qu'on lui reproche fondamentalement. Et vous restituez aussi, Marc Graciano, ce portrait de femme dans la sensualité que vous employez dans le portrait à la fin du roman, de son corps notamment, quand elle est au bain. Et ces deux portraits dressent effectivement l'image d'une femme à laquelle on n'est pas du tout habitué.
Claude Govard.
Mais vous savez, quand vous lisez le procès, enfin les procès, vous vous apercevez qu'effectivement elle avait des formes. Et c'est le comte d'Alençon qui raconte même qu'elle avait des beaux seins et que il les regardait avec plaisir, mais jamais avec concupiscence. C'est ça le problème, c'est que elle n'évoquait aucun désir, elle ne soulevait aucun désir. Bon, moyennant quoi, elle les fustigeait quand ils blasphémaient. Voilà. Et en particulier, elle disait qu'il ne fallait pas, il fallait plus directement blasphémer par son bâton, hein, et non pas le nom de Dieu. Voilà.
Mais d'ailleurs, Claude Gauvard, on ne peut pas non plus totalement ignorer qu'aujourd'hui, dans notre mythologie contemporaine, la sorcière désigne la puissance invaincue des femmes, pour le dire comme Mona Chollet. Donc le dire aujourd'hui, la dire sorcière, c'est d'une certaine manière la sauver.
Oui, sans doute. Mais bon, elle s'est toujours défendue devant ses juges de pratiquer la sorcellerie. Quand le duc de Lorraine lui a demandé de venir pour le guérir, elle a dit « Mais non, moi je ne sais pas faire ça. » Elle n'est pas sorcière, mais elle connaît la sorcellerie. Elle sait que ça existe, elle sait qu'il y a des gens qui s'envolent la nuit, mais elle dit qu'elle n'a jamais été mêlée à tout cela.
Et c'est de ça dont on peur ces juges aussi, c'est d'être enchantés.
Ils ont peur, parce qu'ils ont peur. Et les Anglais ont peur. Ils ne peuvent pas expliquer autrement leur défaite à Orléans.
Marc Graciano, vous avez fait irruption dans la littérature avec cette phrase. « Depuis bien des jours, le vieux cheminait avec la petite le long de la rivière ». C'est la première de votre roman « Liberté dans la montagne » paru en 2013 aux éditions José Corti. Cette phrase se terminait par un point. On ne peut plus tout à fait dire la même chose aujourd'hui, on va y revenir. Mais il était déjà question, dans les très beaux livres que vous avez faits depuis 2013, d'enchantement, de périple, d'animaux, de violence et d'une jeune fille.
Oui, tout à fait. Puis d'une enfant, donc là, d'une petite enfant. Et bon, du coup, c'est vrai que ça a permis à un lecteur, lors d'une rencontre, de me parler de Charles Péguy, que moi j'avais pas lu, et de la petite espérance qu'il avait personnifiée dans une enfant, hein, dans le porche du mystère de la deuxième vertu. Et ça m'a permis aussi de lire Péguy, donc le porche du mystère, et puis sa première, enfin je sais
ce qu'on appelle la première Jeanne d'Arc.
La première Jeanne d'Arc, dite un peu socialiste, enfin.
Celle de 1897, voilà, un moment où d'une certaine manière l'Église rôde autour de Jeanne, mais que la guerre de mémoire n'est pas encore gagnée, qu'elle peut tomber du côté de Jaurès ou du côté de Maurras.
Oui. Et puis, alors que moi j'ai pas vécu jusque-là dans le culte l'adoration de Jeanne d'Arc, j'étais plutôt positiviste, rationaliste. J'étais plutôt sur la ligne Anatole France, quoi. Il me l'a rendu désirable.
Charles Péguy, qu'on a entendu tout à l'heure.
Voilà. D'abord parce qu'il la présente comme ça, comme quelqu'un complètement bouleversé par la présence de l'injustice, de la guerre et de ses méfaits. Et il dit qu'elle veut faire la guerre à la guerre, en fait. Hein. C'est pas tellement qu'elle veut même faire la guerre aux Anglais, selon lui, mais plutôt à la guerre. Et puis j'ai fait une confusion, si vous voulez, entre le porche du mystère et Jeanne d'Arc. C'est-à-dire que pour moi, Jeanne d'Arc, c'est devenu la petite espérance devenue adulte, quoi.
Claude Gauvard, c'est un peu votre Jeanne d'Arc aussi, celle
peu. Enfin, elle est quand même très hostile aux Anglais. Hein. Il faut quand même pas non plus lui enlever cela. C'est-à-dire qu'elle veut les bouter hors de France. Elle dit non, je veux pas les tuer. Non, je veux pas les tuer, mais je veux qu'ils s'en aillent. Ils n'ont pas à être là. Voilà. Et ça, c'est quand même une notion qui me semble intéressante, mais qui est une notion, je le dis dans le livre aussi, de fille des frontières.
Oui.
Parce que il y a une sorte de d'exacerbation, hein, du sentiment d'injustice de cette présence anglaise qu'ils ressentent parce qu'il y a eu des pillages, mais c'est pas seulement la raison. Je pense qu'il y a une perception particulière au niveau des frontières qui est vraiment tout à fait intéressante puisque au moment où elle naît, j'ai dans une archive un conflit. Hein, où on jette les armes du roi de France par terre pour montrer que finalement c'est à la Lorraine qui est alliée aux Anglais d'avoir le pouvoir, quoi.
Marc Graciano, vous publiez Joanne, qui est annoncé comme le premier roman d'un triptyque aux éditions Le Tripode, formidable éditeur qui fait un travail merveilleux pour défendre votre livre et les autres.
Oui.
Je vous invite d'ailleurs à vous promener sur leur site internet qui recueille aussi des jugements enthousiastes et profonds de libraires indépendants qui disent des choses formidables sur votre œuvre. Et puis il y a un petit livre compagnon aussi qui s'appelle Graciano & Co, qui publie des témoignages d'écrivains qui disent leur émerveillement, leur sidération aussi devant votre écriture qui fait corps, littéralement, mais aussi hypnotiquement, avec ces temps anciens. Vous avez déclaré quelque part, j'écris en état de bêtise. Attendez, j'ai essayé de pas avoir l'air bête en donnant à entendre un extrait, quand même, il faut le faire, de votre prose. C'est au début du deuxième chapitre, le départ, et je suis obligé de prendre le chemin en marche, parce que c'est chaque chapitre est une phrase, une longue phrase qui épouse le pas du cheval. Jeanne regarde le ciel, entend des voix, et ça donne ceci. Pendant les jours d'été, pour voyager au rythme de son pas lent et lourd dans les prairies communales, quoique le plus souvent allongé sur son grand dos plutôt qu'à califourchon, et rêvant tandis qu'elle observait le ciel pommelé de nuages comme la grosse croupe de l'animal porteur, ou pensant à Dieu, et surtout à son fils, et parfois l'écoutant lui parler par le truchement de Sainte Catherine et de Sainte Marguerite, toujours elle, et précocement par celui de Saint Michel, quand, un jour de pluie, son immense visage lui apparut dans les lumineuses nuées pendant une éclaircie, et qu'il la prévint de se préparer à partir jamais en guerre, afin de libérer le bon royaume de France des envahisseurs anglais, et qu'elle en fut emplie de félicité, certes, après avoir d'abord éprouvé une grosse frayeur, puis beaucoup douté, mais excepté quand elle était allée se présenter si vue au vieux duc de Lorraine, et ce fut après que sa renommée eut beaucoup grandi, tandis qu'elle avait fréquenté le fort de Vaucouleurs et qu'elle gagnait la réputation d'être une vierge, etc. Tout est là, Claude Gauvin.
Oui, moi je trouve que, si vous voulez, bon, dans ce livre, qui est un roman, voilà, et qui est un roman qui ne parle que du voyage, donc des 500 kilomètres, hein, à peu près, qui
séparent. Très dur d'ailleurs.
C'est, oui, enfin, il était plus facile que, je pense, il est dit dans le roman, mais bon. C'est un voyage de 500 kilomètres, ils ont mis 11 jours à peu près, c'est normal, je veux dire, il n'y a pas eu... Mais ici, il est tellement épique, héroïsé, on voit, si vous voulez, ce qu'elle va devenir. C'est ça que j'aime beaucoup dans ce livre. Il y a l'épisode de l'oiseau, des oiseaux de son enfance, que ses frères tuaient, c'est la pureté qui disparaît. Il y a l'annulage, qui est un passage absolument extraordinaire, hein, du roman, où on voit qu'elle aurait pu, elle donne naissance à quelque chose. À quoi donne-t-elle naissance? À l'agneau? Oui, bien sûr, mais qu'est-ce que c'est que l'agneau? L'agneau, c'est la rédemption. L'agneau, c'est l'agneau de Saint-Jean-Baptiste. Donc c'est quelque chose qui est tout le temps connoté par rapport aux croyances médiévales, sans doute beaucoup plus même pour une médiéviste qui le lit que vous ne le pensiez, je pense. Ouais.
Bah, c'est-à-dire que j'ai utilisé des aussi... Bon, comme je dis, alors pardonnez-moi, c'est pour Jeanne d'Arc, ça fait un peu désordre, mais je fais feu de tout bois. C'est-à-dire que...
Et voilà, c'est parti.
Dans le sens où je me suis un petit peu documenté, donc j'utilise des faits qui sont possiblement avérés historiquement, hein, pour autant que des faits puissent être définitivement avérés. Et après, tout plein d'aspects légendaires. En particulier, je crois que c'est dès qu'elle est arrivée à Chinon qu'il y a une mythification, une légendarisation, et en particulier cette idée qu'elle, les animaux avaient une amitié avec elle. Et c'est la reprise de la figure de Saint François d'Assise, évidemment. Hein. Donc du coup, voilà, j'utilise tout ça. J'utilise même le mauvais côté de la légende, si vous voulez, du côté des Anglais. En particulier, je crois, alors ça, je parle sous votre autorité, Mme Govard, le fait qu'il l'ait accusé d'avoir dirigé une messe. Est-ce que c'est avéré,
non,
cette accusation?
Non, pas du tout. Non, c'est de la fabulation complète, c'est-à-dire que c'est de la propagande.
Oui, d'accord, mais ça, cette affabulation a existé de la part des Anglais, oui.
C'était une rumeur. Parmi les bruits qui circulaient,
Je l'ai repris à mon compte, et en fait, je lui ai fait mener une messe. Bon, c'est pour vous dire que les libertés aussi, hein,
Oui, mais justement, Emmanuel Tixier, nous vous soumettons non pas à la question, mais justement à la lecture de deux historiennes médiévistes, en comprenant que votre livre ne fait pas le portrait historique de Jeanne, mais de sa mémoire. Et justement, c'est de cela dont on parle, d'une femme diffamée, Emmanuel Tixier-Duménil.
Oui, et moi je trouve que vous faites vraiment de l'histoire aussi, et que vous restituez, comme le disait Claude Gauvard, un contexte, des anecdotes qui donnent de la chair à ce personnage, mais qui en même temps se nourrissent vraiment, on pourrait vraiment penser que vous avez lu des dizaines de livres sur cette période. Elle est diffamée, c'est la putain, mais c'est la putain des Armagnacs. Hein. C'est-à-dire que, comme le disait Claude Gauvard, c'est dans un contexte très particulier. Et ce qui sidère, hein, ce qui révulse, ce qui fait peur et ce qui conduit à la haine, c'est qu'elle, c'est un chef de guerre. Hein, et c'est une femme chef de guerre. Et finalement, c'est au fait son épopée, ces 2 ans, ses victoires, finalement, c'est 2 choses. C'est faire lever le siège d'Orléans le 8 mai. Hein, c'est pas pour rien qu'on a repris aussi, on dit, je sais plus si c'est vous qui l'écrivait, Claude.
C'était aussi dans le livre de Colette Beaune.
Dans le livre de Colette Beaune, c'est-à-dire que De Gaulle a fait en sorte que la victoire
Il a attendu le 5
mai. De la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de parler de Colette Beaune, qui est aussi une très très grande historienne sur Jeanne d'Arc. Et donc, c'est aussi une femme de guerre. Et c'est une femme engagée dans un parti très clair qui est celui des Armagnacs et qui est celui du roi de France.
Alors Marc Graciano, nous sommes effectivement avec cette histoire de la fille de la frontière à la frontière de la fiction et de l'histoire. Donc il y a des historiennes qui vous lisent, mais vous-même en tant que qu'écrivain qui avait tant malaxé la langue pour faire surgir ces mots vieux mais en aucun cas usés, vous avez lu dans cette optique-là le livre de Claude Gauvard?
Oui, alors, bon, déjà, moi, j'ai été très sensible à cette idée, bon, que vous dites qu'il y a pas, vous n'avez pas de certitude, mais que vous êtes intéressé à la marque, enfin, qu'elle a laissée dans son environnement, enfin, hein. Et donc, et oui, en effet, que c'est l'image qu'elle a produite qui vous intéressait. Et puis, moi, bon, c'est vrai, vous avez raison, Emmanuel, de l'avoir souligné. Je travaille avec des images, en fait, hein, véridiques ou pas, mais enfin, peu importe. Et pour le langage, je dois vous remercier, Madame Gauvard, parce que vous m'avez fait, sans le savoir, d'un joli mot comme je les aime, c'est-à-dire le mot déconfiture, que vous employez à plusieurs fois. Oui. Et je les affectionne, ces mots, parce que ils ont une sonorité contemporaine, voire même argotique, et en fait, ils sont enracinés vraiment dans le vieux français, en tout cas le moyen français. Donc je suis allé vérifier, et en effet, ça vient de faire, hein. Déconfire, défaire. Et alors celui-là, je pense que si je continue à écrire sur Jeanne d'Arc ou sur un Moyen-Âge rêvé, il sera dans un de mes livres.
Mais
merci.
La déconfiture, sa vraie déconfiture à elle, c'est quand même l'échec devant Paris. Hein.
Oui.
C'est le 6 septembre. Oui. Pour moi, c'est fondamental parce que là, c'est le moment où tout le monde peut penser que Dieu l'a abandonné. Vous voyez? Et là, je rejoins tout à fait votre idée de les mots sont très importants aussi parce que employer ces mots médiévaux sont quand même charnels.
Oui, voilà. Énormément.
Et c'est pour ça que j'aime beaucoup votre livre, moi, votre roman, parce que on les retrouve là. On les retrouve, et pour ceux qui lisent du Moyen-Âge comme nous, eh bien, on est emporté par votre récit.
Oui, il y a une saveur, il y a Marc Graciano.
Alors là, par contre, oui, là, il y a autant sur l'histoire, j'ai peu travaillé, mais sur les mots, oui, il y a une recherche de vocabulaire, et dans ce livre-ci, beaucoup plus que dans les précédents, c'est-à-dire que, d'ailleurs, très aidé par une correctrice du Tripode, j'ai, sauf exception, aucun ne dépasse le 15e, en fait.
Vous avez ceci de commun, d'ailleurs, avec Peggy, Marc Graciano, que lui-même avait voulu éviter absolument le style troubadour, c'est-à-dire qu'avec cette langue ancienne, alors, il voulait faire une littérature contemporaine.
Oui, voilà, parce que c'est l'écueil, hein, c'est de faire une simple réplique, d'être purement réactionnaire, en fait, en réalité, c'est-à-dire juste un retour en arrière. Moi, j'essaye, alors, c'est ma petite, pas prétention, ambition, c'est de redécouvrir l'émotion qu'aurait pu avoir ceux qui les utilisaient à l'époque, que ça paraisse neuf, voilà, qu'on ait un sentiment de nouveauté, de neuf. J'emploie le terme de Noël beaucoup, bon.
Beaucoup.
Parce que oui,
puis dire une langue nouvelle, enfin qui
voilà,
ressurgit.
Évidemment, ça va avec la petite espérance, la possibilité que tout puisse se refaire sans cesse. Voilà.
Mais vous voyez ce mot, moi j'ai beaucoup travaillé sur la rumeur et sur les nouvelles. On ne rencontre pas souvent
Noël
dans les textes, j'allais dire administratifs ou les.
Oui.
Voilà, on ne le rencontre pas souvent. Et ça, ce qui fait plaisir, c'est, on sait qu'il existe. C'est de la poétique, si vous voulez, médiévale quand même. Et là, on le retrouve chez vous, et ça, c'est vraiment un vrai bonheur. Ça vous emporte, les mots vous emportent dans un flux de, comment dire, d'événements qui vont se produire.
Marc Graciano, voilà. Joanne, Claude Gauvard, Jeanne d'Arc, héroïne diffamée et martyre, dans la collection des femmes, tiens, qui ont fait la France, chez Gallimard. Au fond, c'est ma dernière question, ça vous intéresse pas tant que ça, cette question de savoir si elle a fait la France ou pas, vous vous en sortez à la fin par une pirouette. Il fallut donc attendre longtemps, la fin du 19e siècle, pour que la nation s'empare de Jeanne d'Arc et croit qu'elle avait fait la France.
Oui.
Tout est dans la croyance.
Bien sûr, mais je crois que c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, au Moyen-Âge, elle a été à la fois diffamée et héroïsée, selon les lieux, selon les parties. Il n'y a pas une Jeanne d'Arc. Il y a des Jeanne d'Arc.
Et voilà. Puis il y a les vôtres. Merci Claude Gauvard, merci Marc Graziano, merci Emmanuel Dixier.
Merci.
Cette émission a été préparée par Ophélie Vivier et réalisée par Xavier Plestugia. La technique était assurée aujourd'hui par Jérémy Kaufmann. Vous retrouverez toutes les références bibliographiques sur le site de France Inter, à la page de notre émission. La semaine prochaine, nous évoquerons l'histoire des luttes environnementales avec Claude-François Matisse. Bon dimanche sur France Inter.